Sherif Kouachi, en fait, il a 32 ans. Moi, il se trouve que j'avais été amenée à le rencontrer lors d'un procès qu'il impliquait en 2008. C'est sans doute celui qui était le plus connu des services de police. Déjà, à l'époque, il lui reprochait d'avoir été membre d'une filière qui voulait partir en Irak pour faire le djihad. Lui, il était un des membres déjà décrits comme les plus violents, les plus impulsifs de la bande. Mais il se trouve qu'à l'époque, il n'avait pas pu partir en Irak. Seuls d'autres avaient pu y aller. Comme son frère Saïd, en fait, ils sont nés à Paris tous les deux, mais dans une famille modeste. On sait que tous les deux ont perdu leurs parents, qu'ils ont grandi en foyer, donc c'est une enfance difficile. Et ensuite, ils ont eu le parcours qu'ont eu plein de jeunes qu'on peut retrouver aujourd'hui parmi les djihadistes dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par de la petite délinquance, par du trafic de shit. Même Sherif, lui, en fumait à l'époque.
Comment est-ce qu'ils ont fait depuis pour passer inaperçus?
En fait, ils ne sont pas vraiment passés inaperçus. Depuis, donc, on les a plus ou moins repérés, en fait, il y a 10 ans maintenant, c'est-à-dire entre 2003-2004. Ils ont toujours fait l'objet plus ou moins d'une surveillance. On sait que régulièrement, les services de renseignement pouvaient émettre des notes sur eux. On sait par exemple que notamment en prison, Sherif Kouachi a rencontré quelqu'un qui était incarcéré pour une peine de 10 ans pour des faits de terrorisme beaucoup plus graves. On sait qu'il l'a rencontré même après sa sortie de prison, qu'il a continué de le voir. Il a même été à un moment été suspecté de vouloir participer à une tentative d'évasion d'un terroriste connu dans une, incarcéré dans une prison française. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 500 personnes qui sont fichées, considérées comme dangereuses. Sauf que pour les services, elles sont un peu classées par ordre de priorité. Et il faut en moyenne 15 à 30 agents de renseignement pour les suivre, quand ils sont prioritaires. Or, il se trouve qu'à un moment, on a considéré que les frères Kouachi n'étaient plus prioritaires. Ils ont réussi à se faire oublier, ce qui fait aussi partie des tactiques des djihadistes, on appelle la taqiya. Et du coup, ils ont pu passer entre les mailles du filet.
Où est-ce qu'ils ont pu s'entraîner alors, au maniement des armes?
Sherif, on ne sait pas exactement, parce que lors de son procès en 2008, il n'avait pas pu partir en Irak. On sait juste qu'il avait reçu quelques rudiments d'entraînement, mais à Paris. Il paraissait à l'époque quelque chose de très amateur, on pensait même qu'il s'entraînait au footing dans un parc parisien, donc ça paraissait vraiment très très amateur. Mais par contre, celui de son grand frère, Saïd, lui, selon les services d'enseignement américains, aurait fait au moins un séjour au Yémen, et c'est là qu'il aurait pu recevoir un entraînement assez costaud.
Et quel est le rapport avec le tireur présumé de Montrouge, ce Hamedi Coulibaly?
Le rapport est plutôt un rapport d'amitié. Visiblement aussi, progressivement, ils ont pu se retrouver dans les mêmes cercles radicaux. On sait que Hamedi Coulibaly a aussi été plusieurs fois incarcéré pour des questions de délinquance, et que c'est aussi en prison qu'il a pu être rencontrer des gens beaucoup plus radicaux, et qu'à un moment, Hamedi Coulibaly et Sherif Kouachi ont été suspectés de vouloir participer à l'évasion d'un terroriste reconnu.
Cette troupe de cellules, c'est spécifiquement français ou bien c'est ce qu'on appelle une cellule dormante d'Al-Qaïda?
Au départ, c'est une cellule purement française, c'est-à-dire que c'est une petite bande de pieds nickelés qu'on avait identifié à partir de 2003-2004, qui n'avait pas fait grand-chose. Mais ensuite, visiblement, on les a sous-estimés, et ces gens-là, au gré de leur séjour en prison, ont été en contact avec des gens plus expérimentés, plus dangereux. On n'a pas vu qu'en fait, ils allaient aussi passer à l'acte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des ramifications internationales. Après, elles sont difficiles à établir. Là, ce qu'on a pu établir, c'est que donc, on avait donc Sherif qui lui était plutôt en France, on a Saïd qui a pu faire un séjour au Yémen, mais en même temps on sait que quelqu'un de cette bande française au départ a revendiqué l'année dernière l'assassinat de deux opposants en Tunisie. On sait aussi qu'il y en a un autre qui est devenu l'un des principaux bourreaux de l'État islamique. Tout ça a des ramifications internationales, mais c'est aussi que ça se fait sur le temps long. En fait, tout ça se fait en 10 ans. C'est ça qu'il faut retenir. Et qu'au départ, ces types n'étaient pas grand-chose. C'était un peu des pionniers parmi les premiers de ces Occidentaux, et notamment de ces Français, à vouloir partir faire le djihad, notamment en Irak, puisqu'on était juste au moment de la Troisième Guerre du Golfe. Et que progressivement, ils sont devenus de plus en plus radicaux, et que finalement, ils sont passés d'idées d'attentats kamikazes en Irak à d'attaques sur le territoire français en Europe.